des fois, sont un chantier de construction. On va se parler de ça ce matin. Qu'est-ce que ça prend quand on veut construire quelque chose? Quand vous avez un bâtiment à construire, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des plans. Excellent, hein? Vous êtes vraiment bon. Alors, quand on parle de plan, qui dit plan dit architecte. Le rôle d'un architecte dans un projet de construction, c'est quoi? C'est un maître d'œuvre, c'est celui qui est la clé là, de tout ce qui va se construire. Il va transformer les besoins, les attentes du client en plans concrets, techniques, pour arriver à la construction. On dit que c'est la... J'ai une feuille à l'envers. On dit que c'est le chef d'orchestre qui va coordonner tout le travail, qui va s'assurer que tout est fait selon les attentes, les normes, jusqu'à ce que le projet soit donné au client. Notre architecte au Camp Brochet, c'est Daniel Saint-Jean. C'est un gars de jeune homme de Québec, et peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Daniel, c'est un gars qui a grandi, comme on dit au camp. Il était staff, moniteur, membre encore aujourd'hui de notre corporation. Donc, Daniel, c'est quelqu'un qui connaît très bien le camp. C'est quelqu'un avec qui on a parlé beaucoup. Il connaît nos besoins. Il y a eu plusieurs rencontres, des années de préparation. On est rendu en 2026. Ça fait au moins 10 ans qu'on parle de ce projet-là. Donc, il y a eu beaucoup de discussions et Daniel a fait partie de ces rencontres-là. Il nous a écoutés. Il a donné ses commentaires. Donc, il connaît nos besoins. Daniel a dessiné un bâtiment. Il a fait les plans d'un bâtiment qui est beau, avec des éléments architecturaux. On voit pas très bien ici, mais sur l'éclairage, mais ces poutres que vous voyez en avant, là, pour le préau, là, c'est la galerie. Ça, c'est des arbres qui viennent du camp. Alors, il voulait avoir quelque chose qui fasse référence au camp. Donc, il a fait un bâtiment avec des courbes, des angles, des couleurs, des matériaux différents, des jeux de profondeur. Il voulait quelque chose de beau. La Bible nous présente aussi un architecte, n'est-ce pas? Le Dieu créateur de toutes choses. Et on voit cet architecte autour de nous. Quand on regarde la nature, j'ai traversé le parc des Laurentides ce matin, c'était magnifique. Puis vous avez une région aussi où vous avez des beaux coups d'œil. La nature nous parle d'un créateur, on chante ça. Donc le créateur, l'architecte de toutes choses, on le voit dans la création de l'homme et de la femme. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Il a aidé l'architecte de qui nous sommes, hein? De ce qui nous entoure. On voit cet architecte-là même dans des bâtiments dans la Bible. C'est lui qui va donner les plans du tabernacle, de la tente d'assignation à Moïse. Donc Moïse va faire le tabernacle selon les plans qu'il a reçus. On voit ça dans Actes 7, verset 44. « Selon le modèle que tu as vu ». Même chose avec David et Salomon. David va transmettre les plans à Salomon. Ce n'est pas David qui va construire le temple dans Jérusalem, c'est son fils Salomon. Mais encore là, David va transmettre des plans que Dieu lui a donnés, qu'il a reçus. On le voit, ceux qui ont déjà lu ce passage dans Hébreux, lorsqu'on parle d'Abraham, il attendait une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, Dieu est l'architecte de ce qui nous entoure, il est l'architecte de l'homme et de la femme, il est même l'architecte de ce qui nous attend dans l'avenir, dans l'éternité. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il est aujourd'hui, présentement, l'architecte de nos vies? Je vous invite à lire, je vais le mettre à l'écran parce que ça va aller un petit peu plus vite. J'ai quand même beaucoup de lectures ce matin. J'ai mis à l'écran 2 passages. Le premier, c'est dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Je le lis avec vous. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car, et j'ai souligné ça ici, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance. » Donc, nous sommes son ouvrage. Dans Philippiens, chapitre 1, on lit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Donc, encore là, un travail qui se fait. Donc, pour pratiquer des bonnes œuvres, pour rendre parfaite cette bonne œuvre, quand on parle de cette bonne œuvre ici, je ne sais pas si vous le savez, mais on parle de l'Évangile, du salut qui est en nous. Alors, il prépare des bonnes œuvres pour qu'on les pratique, mais quand on parle de cette bonne œuvre dans Philippiens chapitre 1, c'est en relation avec le salut qui nous habite. C'est cette bonne œuvre qu'il a fait en nous. Alors, il a commencé quelque chose et il veut la rendre à terme. Et pour ce faire, il nous équipe, il nous donne des choses, il nous équipe pour atteindre cet objectif. Et je donne quelques idées ici. D'abord, un, l'amour, dans Romains chapitre 5. L'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, Dieu répand en nous l'amour, son amour, par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'on soit capable d'aimer les autres. Pour qu'on soit capable d'apporter l'amour de Dieu aux autres. Si on essaie d'aimer les autres par nous-mêmes, vous savez très bien que ça n'ira pas loin. Hein? On a de la misère à s'endurer nous-mêmes des fois. Mais par l'amour que Dieu a mis dans nous, on peut aller vers les autres. Il nous donne également sa paix. Dans Jean chapitre 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » On va dire, nous avons la paix de Dieu. Dieu nous donne sa paix. Et nous sommes en paix avec Dieu. C'est-à-dire qu'on sait que notre éternité est assurée. On sait que le jugement qui était pour nous est tombé sur Jésus, sur Jésus-Christ à la croix. Alors, nous avons la paix de Dieu et la paix avec lui. Joie, bonheur. Alors, encore là, dans Jean chapitre 15, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Les amis, nous avons la joie de Dieu, la joie du Seigneur Jésus. Jésus était là pour faire la volonté de son Père. Et il le faisait avec joie, parce qu'il savait que cette joie-là allait être en nous. Il voulait nous la donner. Il nous donne la force aussi de faire les choses. Paul va dire, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et on peut s'approprier ce verset-là. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est Jésus-Christ, qui nous donne la force de faire ce que nous avons à faire, donc de faire grandir, d'atteindre, de répondre à cette offre que Jésus-Christ nous donne, de dire que je vais faire toutes les choses pour amener à votre perfection. On va reparler de ça tantôt. Donc, Dieu nous a déjà donné tout. Éphésiens chapitre 2, nous avons été choisis. Nous avons été choisis avant même que Dieu crée l'univers. Chapitre 1. C'est fou, ça. Avant la pensée de l'atome, avant la création de l'atome, Dieu pensait à nous. Dieu pensait à nous. Notre salut est entièrement basé sur la grâce. Ça, c'est une preuve que n'a rien à faire dans le salut. Dieu a décidé ça depuis toute éternité. Et puisque j'ai été choisi en Christ, l'architecte de ma vie connaît mes besoins. Il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Il me voit dans les perfections de Christ, sans défaut. Il me voit beau et surtout, et il me porte sur son cœur. Pensez que Dieu vous connaît, Dieu vous pense à vous depuis toute éternité. Il vous porte sur son cœur. Qu'est-ce que ça prend d'autre pour un projet de construction? Un terrain, matériaux, des outils. Avec des outils, ça prend quelqu'un pour les manier. Hein? Un marteau tout seul, ça ne marche pas. Ça prend des bons ouvriers, André. Tu connais ça? Alors, ça prend des bons ouvriers. Moi, je veux dire des ouvriers même spécialisés. Alors, pour notre projet, nous, on compte sur plusieurs personnes qui ont des compétences, des plombiers, des électriciens, des gens de... On parlait de fondation, terrain tantôt, quelqu'un qui a une compagnie d'excavation. On a un maître, ce qu'on appelle un gestionnaire de projet, qui a toutes les compétences, contracteur, qui a décidé, lui, de se consacrer à ce projet-là pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est avec nous, puis qu'il dirige tout, qu'il s'occupe des appels d'offres, d'aller chercher des soumissions, puis tout ça, puis il suit les plans. Donc, c'est vraiment fantastique d'avoir ce genre de personnes-là. Vous savez que dans la Bible, on a des exemples d'ouvriers spécialisés aussi. Je vous amène encore dans un texte devant vous, là, dans Exode chapitre 31, je suis avec Moïse encore. On a parlé tantôt des plans pour construire la tente d'assignation, le tabernacle. Alors voici comment Dieu a aidé Moïse. « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver les pierres et à enchâsser, donc des pierres qui étaient dans des enchâssées, c'est ça, à l'intérieur de métal. Donc, il a fait ça, de travailler l'or, le bois, de réaliser toutes sortes de travaux. Et lui-même avait de l'aide, il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec lui. Donc, Moïse avait des gens compétents qui avaient été même inspirés par Dieu, ces gens-là. On le voit également, on a parlé tantôt du temple à Jérusalem. Salomon, quand il a voulu construire ce temple-là, il est allé chercher de l'aide chez les Sidoniens, qui étaient des meilleurs bûcherons que les Israéliens. Alors, tes hommes sont meilleurs que moi, que les miens, j'ai besoin de tes gars. Il a demandé aussi, il y a eu des ouvriers spécialisés comme sculpteurs, des tisserands qui venaient du Liban. Donc, des ouvriers spécialisés qui sont venus appuyer les Israélites dans la construction du temple. Aujourd'hui, quels sont vos ouvriers spécialisés? C'est qui vos ouvriers spécialisés dans votre Église? Là, on va lire. Tournez vos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4, au verset 10 ou 11, verset 11. Alors, on va lire ensemble quelques versets. Éphésiens chapitre 4, tout le monde est là? Verset 11. « Et il a donné », donc le « il » ici, c'est Jésus-Christ, OK? Alors, Jésus-Christ a donné les uns, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » J'arrête là. Je vous mets à l'écran la façon que je comprends ces versets. Alors, les dons qui sont donnés ici, il a donné à l'Église des pasteurs, des conducteurs, des apôtres, etc., prophètes, ce sont des personnes, ça. OK? Ce n'est pas les dons de prophétie, ce n'est pas le don d'enseignement, ce sont des enseignants. Les dons qui sont donnés dans ce passage, dans ces versets, ce sont des personnes. Il a donné des personnes compétentes, douées pour l'édification. Et comme vous voyez, c'est comme ça que je le dis un peu. Le rôle de nos conducteurs spirituels, avec leurs dons spécifiques, est d'équiper, former les chrétiens pour le service. Dans la version que je viens de lire, on dit ministère. Dans d'autres versions, c'est le service. Ça veut dire quoi? C'est l'action, service. Avec comme objectif de nous faire grandir individuellement et collectivement en maturité spirituelle à la ressemblance de la personne du Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Dieu a donné des hommes et des femmes dans l'Église dont les dons servent à l'édification du corps de Christ, à faire grandir les uns et les autres individuellement et collectivement pour atteindre quoi? La stature parfaite de Christ. Ressembler à Jésus-Christ. Et vous avez un mot que j'ai souligné sur l'acétate, l'écran. Le mot « service ». Le service, les amis, c'est la voie, c'est le chemin pour atteindre cette perfection-là. On a l'enseignement. Puis si vous voulez que l'enseignement que vous avez reçu par les gens qui sont doués, qui sont placés dans votre Église, puisse vous faire grandir, bien, ça passe par le service. Si vous n'avez pas le service, si vous ne vous êtes pas impliqué dans l'œuvre de Dieu personnellement, il vous manque quelque chose. Il va vous manquer un gros morceau pour atteindre la perfection de Christ. Donc, Dieu a donné des dons à nos conducteurs pour être mis au service de ce sage architecte qui a un plan pour nos vies personnelles et pour son Église. Qu'est-ce que ça prend d'autre? On a parlé d'ouvriers spécialisés, d'architectes. Ça prend du monde qui travaille aussi. Pas du monde qui sont compétents, là, super compétents. Ça prend du monde qui savent travailler. Et pour nous, on en a eu plusieurs qui sont venus travailler, qui travaillent encore, des plus vieux. Certains d'entre vous ont déjà travaillé avec eux. Donc, on est vraiment bien. On a du monde, mais on en a toujours besoin, OK? Vous avez à l'écran ici un exemple. Dans la Bible, on a un très, très bel exemple où on voit que Moïse a été supporté par 70 personnes de son peuple. Et je vous invite à lire avec moi dans Exode, au chapitre 24. Verset 1. Exode, deuxième livre de la Bible, chapitre 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Je vous invite maintenant à lire le verset 9, 10 et 11. Toujours au même chapitre. Moïse donc monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ces 70 personnes, anciens d'Israël, qui accompagnaient Moïse, qui le supportaient dans son travail, les amis, vont voir Dieu et vont prendre un repas avec lui. Quelle image! Quel exemple! Appuyer un leader, appuyer des responsables, bien, ça peut nous amener très loin dans notre vie spirituelle. J'ai une question pour vous. À quelle distance êtes-vous de vos responsables, de vos leaders d'Église? À quelle distance êtes-vous? Autrement dit, êtes-vous impliqué dans le service pour Dieu avec eux? Ou vous voulez laisser aller tout seul? Vas-y, mon gars, t'es bon, continue, lâche pas. Mais toi, tu fais rien. Est-ce que vous pouvez voir le ciel? Ensemble, lorsque vous vous approchez de Dieu. Puis en même temps, il y a une contrepartie. Chers responsables, est-ce que les chrétiens de votre assemblée voient votre visage resplendir parce que vous vous êtes approchés de la présence de Dieu? Dans Exode, au chapitre 34, après l'histoire du veau d'or, Moïse va descendre va revenir, va descendre de la montagne avec les tables de la loi. Et lorsqu'il va s'approcher de ces mêmes hommes qu'il a vus, de ce peuple, son visage va resplendir à tel point que les gens vont en avoir peur. Il a vu Dieu, son visage a resplendi. Moïse va cacher son visage. Mais l'idée, c'est que son visage resplendit la gloire de Dieu. On a chanté dans notre premier cantique ce matin, je l'ai gardé en note parce que je trouvais ça intéressant. À la dernière strophe, « Seigneur, je suis à toi, je veux chanter ta grâce, car tu m'as délivré, car tu me rends heureux. » C'est beau. « Je me sais racheté, je contemple ta face, elle brille sur moi, m'illumine des cieux. » On a chanté ça ce matin, les amis. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que je le vis aussi? C'est des versets qui sont challengeants, hein? C'est des pensées qui nous interpellent. Moi, vous savez, je me demande des fois ce que les gens entendent de moi, que je les enseigne, que je les dirige, que je leur montre le chemin. Moi, je pense que ce qu'ils veulent voir, là, c'est la gloire de Dieu au travers de moi. Ce n'est pas un chemin. C'est Dieu qu'ils veulent voir. On lit dans Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce qu'on le fait voir, ça? Christ vit en moi. Qu'est-ce qu'il voit quand il nous regarde? Est-ce qu'il voit Christ ou il voit un mur opaque? Alors, défi pour chacun d'entre nous. Ça prend d'autres choses. On a parlé de matériaux tantôt, terrain, tout ça. Oui, mais pour avoir ces choses-là, ça prend de l'argent. Et ça, c'est la dernière question que je vous ai posée. Je vais vite là-dessus parce que je vous ai déjà parlé de ça. Ça, c'est la position en date du 31 décembre. Ça a changé un peu, oui, évidemment, avec les travaux de cet hiver. Mais ça, c'est l'idée est encore la même. 1,2 million, c'était le projet total de la bâtisse. Et on a dépensé au 31 décembre 782 000, une balance donc 417 000. On a 200 000 piastres sans compte, dans le compte de banque pour le projet, donc un manque à gagner de 217 000. Ça joue dans ces eaux-là encore. On a dépensé, on a eu un peu moins d'argent, mais ça va bien. On attend, comme j'ai dit, de terminer ça pour l'année prochaine. Il nous manque grosso modo 200 000, c'est ce qu'il faut retenir. Pourquoi parler d'argent? Ben parce que ces chiffres-là nous montrent quoi? Que l'argent est nécessaire, c'est vrai. Mais surtout, que Dieu peut pourvoir. Hein? On l'a vu. Si nous avons pu par grâce, là, au Camp Brochet, construire un bâtiment de 1,2 million, puis il nous en reste pour 200 000 piastres à peu près, là, à 40 km au nord de Chicoutimi, dans le bois, 300 km de Sainte-Marie-de-Beauce. Bien, écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Dieu, pour notre Dieu, rien n'est impossible. Pour notre Dieu, rien n'est impossible. On peut voir aussi dans ce projet la fidélité des générations. Si on le voit au camp, depuis 60 ans, le camp a débuté, construit. Et je parlais cette semaine avec des gens qui étaient là la première année du camp. Ils étaient dans des tentes, sur des plateformes. C'était la première été au Camp Brochet, en 67. Aujourd'hui, on a un setup qui est très différent. Mais ça montre quoi? Que Dieu est fidèle et que les gens ont été fidèles. Les générations qui ont suivi de travailleurs au camp ont été fidèles. Dieu est fidèle et les chrétiens aussi le sont. Dans la Bible, on voit cet exemple-là dans Exode, chapitre 36, même quand ils ont construit le tabernacle, à un moment donné, Moïse a dit arrêtez d'apporter des offrandes, ils disent, on en a assez. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous? Eh bien, Dieu s'occupe de nos besoins quand nous sommes dans sa volonté. Je ne parle pas là, de l'évangile de prospérité, mais juste du fait que Dieu connaît nos besoins. Puis il est fidèle, il peut pourvoir, il peut prendre soin de nous. Puis on peut retenir aussi qu'on peut être audacieux pour Dieu. Des fois, on est un peu gêné de demander à Dieu. Je pense qu'on peut être audacieux. Quand nous sommes fidèles, quand nous faisons des choix pour Dieu, nous ne sommes jamais perdants. Et évidemment, quand on parle d'argent, c'est un volet, mais puis je ne l'ai pas dit, mais la prière soutient tout ça, tout le temps. On ne peut pas se lancer dans un projet comme ça sans demander à Dieu de pourvoir, sans lui demander de nous protéger, sans lui demander de nous diriger. C'est continuel, continuel, continuel. Alors, quand on fait des choix pour Dieu, ça ne veut pas dire cependant que c'est toujours facile. Hein? Il peut arriver des moments difficiles. Et les défis font partie également d'un projet de construction. Je vous présente François Desgagnés, j'en ai souvent parlé. François, c'est le gars avec qui je travaille. J'ai une petite vidéo de lui de une minute. J'espère que le son va être bon. Alors, on l'essaie. Oui, c'est tout vert. C'est parce que là, je suis sur l'âge des mi, là, mon chemin. Là.
Garde-le bien, on va faire quelque chose.
Vous ne verrez pas le gars, là, mais vous allez l'entendre.
Vous voyez, là. Puis on se demandait comment qu'on allait faire. Là, je vous montre le mur arrière.
C'est le mur arrière que vous avez vu dans
la tôle. Okay. C'est des tôles comme d'une 15-16 pieds de long. On voulait que ce soit bien fait. Puis j'étais carrément sur le coin ici. C'était un addon parce que je pensais pas venir... J'ai deux pieds dans la neige. Là. Deux pieds de neige, mais... J'étais sur le coin ici, puis j'étais tout seul. Je travaillais... C'est caché dans la neige, ça tourne là, puis j'ai regardé la bâtisse, puis j'étais découragé complètement. Ça avançait pas assez vite à mon goût. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ça va-tu nous prendre autant de temps que Noé bâtir son arche? Ça va-tu prendre 100 ans à bâtir ça? T'sais? J'avais comme cette vision-là de Noé, là, t'sais, qui, un clou à la fois, là, une planche à la fois, là, puis ça finit plus. T'sais, je disais, on veut te servir, t'sais, on... Mais là, on ne sait pas trop comment faire. Puis, 5 minutes après, plusieurs le connaissent, c'est Luc Vallée, un entrepreneur en construction-rénovation, très compétent. Puis, lui de la tôle, il n'avait déjà posé. Très bon. Il a écrit sur le groupe Messenger, 5 minutes après. Il dit, je pourrais venir dans 2 semaines, je pourrais venir pendant 3 jours. On serait 4 gars habitués de travailler ensemble. Puis il dit, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse, puis on va faire ça. Fait que d'emblée, moi, je pense tout de suite, j'ai dit, tu vas nous poser à tour. Fait que là, on a continué de se préparer pour quand il allait arriver, la tôle allait être prête. La tôle est arrivée 2-3 jours avant que lui, Luc, vienne avec son équipe. Puis... En dedans d'une fin de semaine, puis il y en a un qui est revenu la semaine d'après, ils ont tous posé la tôle au complet. Au complet. Nous autres, on n'a pas touché une feuille de tôle. L'équipe qui en est ici, là, tous les gars, là, les 3-4 gars qu'on était ici, 4-5 gars, là, qu'on se disait tous, comment qu'on va faire? On ne sera pas capable de poser la tôle. Mais il y a une équipe qui est venue de l'extérieur de Québec, puis qui l'a tout posé au complet.
Toucher une feuille. Je ne sais pas s'il va repartir tout seul. Oui, ça a l'air à ça. Alors, on n'a pas touché. Écoutez, là, on arrive à la fin, je n'irai pas trop dans les détails, mais c'est vraiment une histoire de fou. Les gars étaient complètement... ils étaient vraiment tannés. Et puis... C'est ça. Le Seigneur a répondu à leur cri, à leur désespoir. Et le travail s'est fait en l'espace de quelques jours. C'était vraiment le fun. C'est une belle leçon pour eux comme pour moi. Comment Dieu répond quand on est au bout, là, puis qu'on crie à lui. C'est vraiment une belle leçon. Comment vivre ces défis-là maintenant, aujourd'hui? Je vous donne trois leçons que j'ai vues, moi, dans la parole de Dieu. La première leçon qu'on peut faire lorsqu'on est dépassé par les événements, lorsqu'on fait face dans les défis de... Là, on parle de construction, mais ça peut être un ministère, ça peut être une église qui nous présente des situations difficiles, ça peut être nos vies personnelles. La première chose que je vous partage, c'est le partage des responsabilités. Être capable de déléguer, être capable d'aller chercher de l'aide ailleurs. Et j'ai un texte que je trouve intéressant avec, encore une fois, Moïse dans Nombre au chapitre 11. À ce moment-là, dans la vie de Moïse, il fait face au mécontentement, c'est vraiment une révolte du peuple qui est tanné de manger de la manne. Okay? Ils ont de la nourriture, mais ils sont tannés de manger de la manne, le pain. Alors, ils veulent manger autre chose, ils veulent manger de la viande, ils se souviennent des légumes qu'ils mangeaient en Égypte. Et là, Moïse est complètement découragé. Si vous connaissez déjà ce passage, peut-être que vous savez qu'est-ce qu'il va demander à Dieu. Est-ce que vous le savez? Il veut mourir. Il dit, enlève-moi la vie. Il est à ce point-là découragé. Et Dieu va lui répondre de cette façon-là. Rassemble auprès de toi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi. Et que tu ne l'apportes pas tout seul. Alors, voyez-vous, l'idée de partager les responsabilités, c'est dans la Bible, et on peut le faire encore aujourd'hui. On a une deuxième que je vous présente, c'est intercéder auprès des autorités. Il y a des droits qui nous sont acquis, il y a des droits que nous avons, même en tant que chrétiens évangéliques au Québec, les amis. On a des lois. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est avec... Esdras, au chapitre 4, lorsqu'il construit la reconstruction du temple, à un moment donné, les peuples qui les entourent veulent arrêter. Et là, dans le livre d'Esdras, on voit un échange de lettres qui vont aller de part et d'autre avec le roi, chez les Mèdes et les Perses. Et à un moment donné, Esdras va écrire une lettre. Il va dire, écoute, allez voir dans vos registres, nous avons le droit de faire ça. Le roi nous a permis de le faire, qui vous a précédé. Et là, on va faire une recherche dans les registres et on va découvrir effectivement que les Juifs avaient le droit de reconstruire le temple. Et même, ils vont décréter de percevoir une partie des impôts qu'ils recevaient pour donner aux Juifs, pour qu'ils construisent le temple. Autrement dit, le temple d'Israël, construit sous Esdras, va être construit en partie avec les deniers, l'argent qui était pour les Mèdes et les Perses. Alors, les droits ont été reconnus. Troisième difficulté et action qu'on peut faire, réponse aux difficultés, pardon, c'est réorganiser le travail. Donc, on a partage des responsabilités, mais aussi on peut réorganiser notre travail. Dans l'histoire, tantôt je parlais d'Esdras, mais Néhémie qui suit un peu, c'est encore un projet de construction avec les murailles. Et bien, à un moment donné, sous la pression des peuples, encore une fois autour d'eux, cette fois-ci, ils vont juste réorganiser. Ils vont mettre des familles par endroit, chaque coin. Ils vont avoir des gens qui vont garder, puis en même temps, des gens qui vont travailler. Donc, ils vont s'assurer que tout le monde est confortable. Dans la construction de la chapelle, à un moment donné, les gars ils étaient tannés. C'est trop long, on ne sera pas capable d'arriver au bout. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on réorganise le travail. Qu'est-ce que tu es capable de faire, toi? Bon, tu vas jusque-là, bien, on va aller chercher de l'aide. On va trouver d'autres personnes ou on va prendre des contacteurs. Pour le reste, regarde, il faut être capable d'équilibrer le travail, trouver des façons que tout le monde soit à l'aise avec le travail à faire. Alors, sur ces trois conseils, j'arrive à la conclusion. On fait atterrir ça. Quand on pense maintenant à nos vies personnelles, quand on voit nos vies comme un projet de construction, on peut se dire peut-être que la maison n'est pas aussi belle qu'on voudrait, que le toit coule, manque un peu de peinture, tu es un peu défraîchi. Peut-être que tu te vois aujourd'hui trop faible, manque de conviction, fragile. Mais il faut savoir que l'architecte, ce sage architecte qui t'a choisi, chacun, ne te voit pas de cette façon-là. Il nous voit comment? Au travers des perfections de Christ. Dieu voit chacun de ses enfants, Dieu voit dans chacun de ses enfants la rédemption acquise par Jésus-Christ à la croix. Quand il te regarde, quand il me regarde, il voit une personne qui a de la valeur. Quand il te regarde, il voit un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qu'il veut faire de toi. La stature parfaite de Christ, c'est un chef-d'œuvre, les amis. Donc, Dieu se sert de chaque frustration, chaque défi, chaque lutte dans nos vies, chaque épreuve, comme des briques, des planches, des traits de crayon de l'architecte, d'un dessin, pour achever la construction de ta vie. Et un jour, tu vas voir, comme moi-même, la grandeur et la splendeur de l'œuvre de Dieu. Et on va comprendre le but, les raisons des épreuves qu'on a connues. François, tantôt, était tanné, mais quand il a vu l'équipe de Luc arriver, puis les tôles se poser, il a dit, « OK, Seigneur, tu viens de m'apprendre quelque chose. » Alors, nous, à la fin de nos vies, imaginez-vous, on va tous voir le passé. On va dire, « Wow, c'est ça que tu faisais avec moi, Seigneur. Wow, wow. » Donc, comme l'architecte qui trace les lignes d'un bâtiment, Dieu va travailler dans nos vies pour créer un chef-d'œuvre. Tu es son chef-d'œuvre, un ouvrage conçu dans la grâce, l'amour. Et si tu lui permets, il va construire ta vie de façon à le glorifier. Et je reprends le passage, le verset de Galates. « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. » Excusez, c'est pas Galates, c'est Philippiens. « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Prions. Notre Père, nous voulons devenir le chef-d'œuvre que tu vois dans nos vies, que tu désires. Et on te demande, notre Dieu, de nous aider à mettre de côté notre orgueil, à mettre de côté toute l'indépendance que nous avons. On veut se laisser diriger par toi, on veut se laisser travailler par toi, transformer par toi. Donne-nous, notre Dieu, de se plaire, d'être heureux, d'être transformé par ta grâce, ton amour, et même les épreuves que tu places dans nos vies. Merci encore, notre Dieu, pour l'Assemblée de Sainte-Marie, pour leur zèle et leur fidélité. Garde-les, fais-leur du bien. Merci pour tout ce qu'ils sont pour moi et pour le camp. Ils sont précieux pour nous. Fais-leur du bien. Au nom de ton Fils. Amen.